Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonjour. En ce dimanche 9 mai 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'accord multilatéral nucléaire, l'Iran fait pression sur les États-Unis. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, début de l'inscription des candidats à l'élection présidentielle en Iran. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés après que les forces israéliennes ont attaqué des manifestants à Al-Quds pour la 10e nuit consécutive. Et puis le bilan des multiples explosions à la bombe de samedi devant une école de filles dans la capitale afghane Kaboul est passé à plus de 50. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'inscription des candidats à la 13e élection présidentielle de la République islamique d'Iran commence le 11 mai et se poursuit jusqu'au 15 mai 2021. Selon le communiqué du Conseil des gardiens de la Constitution de la République islamique d'Iran, les candidats doivent se présenter au ministère iranien de l'Intérieur avec les documents nécessaires depuis le 11 jusqu'au 15 mai 2021. Parmi les conditions de l'inscription, le candidat doit être âgé d'au moins 40 ans et d'au plus 75 ans. La 13e élection présidentielle de la République islamique se tiendra le 18 juin 2021, en même temps que le 6e mandat des conseils islamiques de la ville, du village et des nomades. Dans certaines régions, les élections de l'Assemblée des experts et celles de l'Assemblée islamique aussi seront parallèlement tenues. Le président iranien a déclaré que presque toutes les principales sanctions contre Téhéran ont été levées sur la scène des pourparlers de Vienne, notant que les pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 se poursuivent pour le moment sur certains détails et non plus sur la levée des principales sanctions. Hassan Rouhani a fait cette remarque un jour après le début du 4e siècle de négociations sur la relance du plan global d'action conjoint à Vienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que les États-Unis avaient l'obligation d'aider à sauver l'accord qu'ils ont abandonné en 2018. Zarif a déclaré que Washington était celui qui s'était retiré de l'accord et avait violé ses engagements liés au pacte. Il a déclaré que le président Biden devrait maintenant décider si les États-Unis continuent l'anarchie ou adhérer à la loi. L'Iran pourrait étendre sa coopération en matière d'inspection avec l'AIOA, le principal négociateur iranien au pourparlers de Vienne sur la relance du JCPOA, l'accord nucléaire, a déclaré que Téhéran pourrait envisager d'étendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les inspections de ses sites nucléaires. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a fait ses remarques dans une interview accordée à la télévision japonaise NHK.
Alors, tu diriges la délégation iranienne dans les pourparlers de Vienne sur la revitalisation de l'accord nucléaire iranien avec les 4 plus 1 qui comprend les autres participants à l'accord. La délégation américaine n'assiste pas directement aux négociations car la précédente administration américaine a retiré son pays du pacte en mai 2018. Et depuis lors, Washington n'est plus considéré comme un participant. L'Iran a indiqué qu'il était sur le point de mettre fin à sa coopération avec l'AIOA sur les inspections nucléaires si aucun progrès n'était réalisé dans les pourparlers sur la levée des sanctions américaines et d'autres questions d'ici la fin mai. L'Iran rejette les accusations sans fondement du Maroc à l'AIPAC. Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté les accusations sans fondement du gouvernement marocain selon lesquelles l'Iran mène des activités de déstabilisation en Afrique du Nord et de l'Ouest. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a fait des allégations non fondées contre Téhéran lors de la conférence annuelle de la Commission des Affaires publiques Amérique-Israël, AIPAC, à laquelle il a participé par liaison vidéo jeudi. Il a également salué les accords de normalisation négociés par les États-Unis entre Tel Aviv et certains États arabes et a exprimé la satisfaction de Rabat à l'égard des pactes. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés après que les forces israéliennes ont attaqué des manifestants à Al-Quds pour la deuxième nuit consécutive. Le Croissant Rouge palestinien affirme que 90 personnes ont été blessées dans les violences dans le quartier de Sheikh Jarrah. Les soldats israéliens ont tiré des balles en caoutchouc, des grenades sonores et des canons à eau pour disperser les manifestants. La violence survient un jour après que plus de 200 Palestiniens ont été blessés lors de l'attaque des forces du régime contre des fidèles de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte. Israël a renforcé les restrictions sur les fidèles palestiniens à Al-Quds depuis le début du mois sacré du Ramadan. Le plan du régime visant à raser les maisons de plusieurs familles palestiniennes à Sheikh Jarrah pour faire place à des unités de colons a également accru les tensions. Le soi-disant quartet du Moyen-Orient, États-Unis, Russie, Union européenne, ONU, ont exprimé leur profonde inquiétude face à la violence à Al-Quds. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a mis en garde contre les conséquences dangereuses des atrocités israéliennes contre le peuple palestinien, appelant le monde musulman à adopter une position ferme contre les crimes israéliens. L'actualité, c'est également le Yémen. L'armée yéménite affirme avoir mené une autre frappe de drone en représailles contre des cibles saoudiennes dans le sud du royaume. Le porte-parole de l'armée, Yahya Sari, a déclaré que l'attaque avait réussi à cibler la base aérienne du roi Khalid dans la ville de Khamis Mouchaïd à l'aide de drones Kassef K2. Les attaques yéménites se multiplient en guise de représailles à l'agression meurtrière de plusieurs années de l'Arabie saoudite contre son voisin du sud. Riyad et ses alliés ont lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en 2015 pour y rétablir un régime fantoche. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées à cause de la guerre, mais l'armée yéménite et ses forces alliées, Ansar Allah, ont intensifié leurs attaques de représailles contre le royaume ces derniers mois. Enfin, le bilan des multiples explosions à la bombe de samedi devant une école de filles dans la capitale afghane, Kaboul, est passé à plus de 50. Les autorités affirment qu'au moins 150 personnes ont également été blessées dans les explosions dans une zone largement peuplée par la communauté chiite Hazara. Le président Ashraf Ghani a imputé l'attaque aux talibans, mais le groupe nie toute implication. Les familles des victimes reprochent au gouvernement et à l'Occident de ne pas avoir mis fin à la violence. Les Hazaras ont été ciblés dans le passé par le groupe terroriste Daesh. Les explosions sont survenues une semaine après que les États-Unis ont commencé à retirer ses troupes restantes d'Afghanistan. Après 2 décennies de présence militaire, Washington n'a pas réussi à y assurer la sécurité. Pendant ce temps, l'Iran a condamné l'effusion de sang, exhortant tous les groupes afghans à travailler ensemble pour instaurer la paix et la sécurité. Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a dénoncé l'acte de terrorisme visant les gens ordinaires, en particulier les étudiants, et a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Selon les médias, une explosion a visé une école dans l'ouest de la capitale afghane, Kaboul, et a tué et blessé des dizaines d'étudiants et d'autres personnes samedi après-midi à 16h27, heure locale de Kaboul. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Accord nucléaire, comment l'Iran fait pression sur les États-Unis? Selon des responsables américains et iraniens, la Maison-Blanche a l'intention de réduire une partie importante des sanctions économiques contre Téhéran, a écrit un site web américain. Les négociations avec l'Iran à Vienne sont centrées sur la portée et l'ampleur de l'allègement des sanctions, a déclaré un porte-parole du département d'État Washington Free Beacon. L'Iran pousse l'administration Biden à annuler presque toutes les sanctions appliquées par l'ancienne administration Trump, y compris celles qui visent le programme nucléaire du pays, les banques et le commerce du pétrole. Les États-Unis ne seraient prêts à lever les sanctions nécessaires à notre conformité au PGAC, l'accord nucléaire, que si l'Iran est prêt à ramener son programme nucléaire à son statut du PGAC, y compris en ce qui concerne le niveau et l'ampleur de ses activités d'enrichissement d'uranium, a déclaré un porte-parole du département d'État. Le département d'État a déclaré au Washington Free Beacon que l'allègement des sanctions était en bonne place sur la table. L'équipe continue d'explorer et de discuter des problèmes et des options concernant l'allègement des sanctions, a déclaré le porte-parole. Les deux parties, cependant, sont encore loin d'être accordées aux yeux de l'administration. Des progrès ont été réalisés, mais nous ne nous traînons pas les pieds ni n'accélérons les choses, a déclaré le responsable américain. Les pourparlers se poursuivront à un rythme approprié pour aborder l'importance des questions en cours de négociation. Pressé de savoir quelles sanctions spécifiques les États-Unis seraient prêts à abandonner, le porte-parole a déclaré que la question restait ouverte. La nature précise des mesures liées aux sanctions que les États-Unis devraient prendre pour atteindre cet objectif est un sujet pour parler. Behnam Bentaleblou, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré qu'en demandant plus et en révélant qu'il y a un potentiel pour en obtenir plus, les Iraniens signalent plusieurs choses. Les Iraniens sont aptes à utiliser l'espace d'information contre les États-Unis en divulguant stratégiquement les informations des pourparlers afin de créer une pression, a expliqué Tolleblou. L'Iran estime également qu'au contenu des signaux envoyés par l'équipe Biden, selon lesquels il n'y a vraiment aucun appétit, aucun intérêt, aucune résolution pour un accord plus long et plus fort, ces déclarations semblent avoir un aspect décoratif que les responsables américains semblent faire sur le maintien des sanctions. Puisque les Iraniens savent que l'équipe de Biden a des priorités de politique étrangère multiples et contradictoires, ils insistent sur leur position en essayant d'obtenir plus, a déclaré Tolleblou. La réunion de la commission mixte du PGAC a repris vendredi à Vienne en présence des délégations de l'Iran et du groupe 4+1 et il a été décidé de commencer immédiatement des consultations d'experts et techniques et de travailler sur les avant-textes. Jeudi, Mikhail Ulyanov, représentant de la Russie auprès des organisations internationales basées à Vienne, a déclaré que le quatrième tour des négociations de Vienne pourrait être le dernier tour.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Ce vendredi 7 mai, le dernier vendredi du mois béni de Ramadan marque la journée mondiale de Quds. À l'initiative du défunt fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, qui a remis en effet la cause palestinienne au cœur de la conscience arabo-musulmane. Cette journée est considérée comme une occasion pour refléter la voix des Palestiniens sans voix qui vivent toujours sous l'oppression du régime sioniste. En raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus, les célébrations de la Journée mondiale de Quds n'ont pas lieu cette année, mais le leader de la révolution islamique vient de prononcer un discours très important. Dans son discours, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que la question palestinienne reste toujours la question la plus importante de la communauté musulmane. Il a souligné que deux facteurs déterminent aujourd'hui l'avenir par rapport à cette question. D'abord, la poursuite de la résistance à l'intérieur des territoires palestiniens occupés. Deuxièmement, le soutien des gouvernements musulmans à la cause palestinienne. L'honorable Ayatollah Khamenei a également affirmé que l'unité du monde musulman, en effet, conduirait à un cauchemar pour le régime israélien. L'honorable Ayatollah Khamenei a noté que des tentatives désespérées du régime sioniste et de son supporteur, notamment les États-Unis, comme la normalisation des relations avec une poignée de pays arabes, était une tentative désespérée, en effet, de retarder ce cauchemar. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette journée importante et surtout le discours crucial du leader de la révolution islamique sur la question palestinienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous regardez toujours l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître André Chamy, juriste international et sociologue, et Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à vous tous, et merci pour votre invitation, surtout au professeur Dortiguier.
Maître Chamy, alors, selon de nombreux analystes cette année, eu égard aux récentes évolutions relatives à la question palestinienne, notamment les récents événements à l'intérieur de la Palestine occupée, la journée mondiale de Quds revêt une importance toute particulière. Quel premier regard portez-vous justement sur les célébrations de cette journée cette année, Maître Chamy?
Je pense que le premier regard que je porterais sur la commémoration de cette année-là, c'est la chute du mur de la peur. Aujourd'hui, la nouvelle génération palestinienne, animée par une idée enracinée maintenant sur leur volonté d'obtenir leur indépendance et la libération de leur territoire de l'occupant, les a rendus beaucoup plus forts, beaucoup plus courageux, beaucoup plus, incisifs dans leur démarche. Que ce soit en territoire occupé, c'est-à-dire la Cisjordanie et autour, que ce soit à Gaza, au sein du territoire occupé en 48, on sent qu'il y a des évolutions, on sent qu'il y a un tremblement comme un tremblement qui précéderait un tremblement de terre, et le tremblement de terre n'attend qu'une petite secousse pour faire exploser tous les. Nous sommes aujourd'hui à la veille de cette chute. Cette veille, effectivement, peut prendre quelques mois ou peut-être quelques années, mais l'évolution est déjà là et tout est prêt pratiquement pour que l'explosion ait lieu. Il suffit juste qu'il y ait l'étincelle qui est attendue, mais tout en étant dans l'amplification de l'action, tout en étant dans l'amplification de la révolte de la jeunesse, des plus anciens, mais toujours avec cette haine de la situation d'être occupé et d'être dominé, d'être sous l'empire d'un occupant au type criminel et au type animé par des actions terroristes et par des actions qui deviennent de plus en plus insupportables pour l'humanité entière.
Merci infiniment pour ces précisions, Maître Chami. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. Monsieur Dortillier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Codavandé. Bonjour à vos auditeurs. Et un grand merci, un grand bonjour à Maître Chami, que j'ai écouté avec grande attention.
Monsieur le professeur, dans son discours, le leader de la révolution islamique aujourd'hui a souligné que le régime israélien continuerait de se glisser sur la pente du déclin. Il paraît que, justement, on l'a d'ailleurs répété à maintes reprises, c'est un régime qui est condamné à disparaître. Il paraît qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, les jours de cette entité d'occupation sont comptés, monsieur le professeur.
Oui, en effet, il s'agit là d'une fatalité pour le régime israélien. Cette fatalité consiste à imposer un État sur une spoliation générale et à ne pas reconnaître que le caractère sacré de Jérusalem est un caractère qui est d'Al-Qods, est un caractère qui est reconnu, disons, par les différentes confessions, bien sûr le mosaïsme, mais aussi le christianisme, l'islam, et avoir voulu confisquer, disons, cette terre au nom d'une divinité, alors que la plupart de ces dirigeants sionistes, il faut le dire, des troupes qui ont fait cette sorte de révolution, contre le peuple palestinien, venaient d'un pays qui était, il faut le dire, il y avait les États-Unis, il y avait également l'Union soviétique. J'aime à dire souvent, j'aime à répéter que c'est l'Union soviétique qui a, avec Staline, qui a imposé cette notion d'État juif, disons, avec Romico aux Nations Unies en 1947. Bien sûr, les États-Unis ont suivi, mais il s'agit là d'un complot mondial, je dis bien le mot, d'un complot mondial de forces qui sont matérialistes, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir, disons, profiter d'un symbole sacré, afin, disons, de donner une autorité à ce qui n'est qu'une œuvre de dépossession, une œuvre, disons, de spoliation, je le redis. Et ceci a été dénoncé bien avant la guerre, la dernière guerre mondiale, par un juriste, M. Saadi Bississot, que j'avais lu à la faculté de droit à Paris, au Cujas, et qui parle très bien de cette dépossession des terres, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la Jewish Agency, l'agence juive, était en procès pour spoliation, elle était condamnée, mais on n'avait jamais les moyens de faire exécuter le jugement. C'est-à-dire de condamnation en condamnation, cette entité sioniste a pris le pouvoir. On ne peut pas avoir là de ruse plus diabolique, voyez-vous. Et je dois dire que ceci, disons, ne peut qu'apparaître avec le temps. Le temps ne peut que déchirer le mensonge. Le temps travaille contre ces comploteurs. Je dis bien le mot de comploteur aujourd'hui, on a tendance à crier contre les complotistes. Mais il y a eu des complots dans l'histoire, des complots qui ont réussi, avec ruse, mais nous savons, le noble Coran le dit, que la ruse de Dieu est bien plus importante que la ruse des démons.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Maître Chami, le leader de la révolution islamique a en effet évoqué deux facteurs importants pour l'avenir de la question palestinienne, la poursuite de la résistance et de la lutte à l'intérieur des territoires palestiniens et la poursuite en effet du soutien à des pays musulmans, de la communauté musulmane, à ceux qui luttent justement pour la cause palestinienne. Dans quelle mesure justement ces deux facteurs déterminants pourront contribuer à la réhabilitation des droits du peuple palestinien et à la libération en effet de la noble route, Maître Chami?
Vous savez, moi, je dois être un peu pessimiste par rapport à la nation musulmane, mais je dois préciser une chose, c'est qu'il y a malheureusement il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans. Il y a des musulmans qui ont la foi en leur en eux et qui ont compris que la foi accompagne automatiquement le sentiment de justice, parce que l'islam est né pour lutter contre toute injustice. Et ça, beaucoup de musulmans l'oublient. Et effectivement, la République islamique d'Iran, qui incarne cet esprit que j'appellerais saint, évidemment, a été le premier pays du monde à avoir cet engagement aussi fort, aussi puissant, mais aussi enraciné dans l'action et dans les esprits par rapport au peuple palestinien. Dès le premier jour de l'arrivée de la révolution, c'était, je dirais, la première décision pratiquement, c'était la disparition de l'ambassade d'Israël à Téhéran et son remplacement par l'ambassade de la Palestine, alors que la Palestine n'existait même pas dans l'esprit de certains Palestiniens. Et ça, quand vous donnez la place à une ambassade pour leur donner le statut d'un État, ça veut dire que vous avez ouvert la voie à la construction d'un État. Et les premiers, militants qui ont soutenu la cause palestinienne pour rendre l'idée de cet État visible, réalisable et menaçant réellement l'occupant, c'était évidemment les Iraniens et plus particulièrement l'Ayatollah Khomeini, mais après lui, évidemment, l'Ayatollah Khomeini qui a continué avec le même flambeau et autour d'eux, l'ensemble de la classe politique iranienne a commencé par le régiment d'Al-Quds et tout le monde aujourd'ui parle du rôle prédominant, pour ne pas dire prépondérant, du général Soleimani par rapport à la communauté palestinienne, parce que pour lui, le retour à Al-Quds, pour lui, c'était une mission sacrée pour laquelle il a consacré sa vie et, à mon sens, pour laquelle il est mort. Et il a été fait martyr. Pour lui, peut-être que c'était sans regret parce qu'il n'attendait que d'être martyr. Mais pour ceux qui l'ont soutenu dans son action et pour ceux qui ont cru en lui, évidemment, c'est considéré comme un drame. Mais il y a une volonté de continuer après lui et c'est ça qui me paraît le plus important. Mais en parallèle à ça, le soutien apporté par les États-Unis d'Iran au peuple palestinien, aujourd'hui c'est visible. Il y a quelques jours, je regardais une émission sur ce lien entre le général Soleimani et la résistance palestinienne. L'ensemble des composants de la résistance palestinienne, tout bord confondu, était là pour dire on a eu un véritable soutien, le plus fort, le plus puissant et le plus fondamental, c'était évidemment le rôle de l'Iran et plus particulièrement le rôle du général Soleimani. Et ça, c'est le signal le plus fort. Et aujourd'hui, qui est le plus fervent opposant à l'antisémitisme et celui qui est considéré comme menaçant l'antisémitisme, c'est également la République islamique d'Iran. C'est-à-dire que c'est une guerre existentielle entre les deux et ça se terminera par la mort de l'entité sioniste et la renaissance de l'État palestinien.
Merci encore, Maître Chami. Monsieur le professeur d'Ortiguière, bien sûr, l'axe de la résistance ça, en effet, le martyr de la résistance, le général Qassem Soleimani avait toujours porter une attention toute particulière à la résistance palestinienne. Bien sûr, en raison de ce soutien de l'Iran et des groupes de la résistance à la cause palestinienne, aujourd'hui, Israël se trouve dans une impasse. Le leader de la révolution islamique a souligné aujourd'hui qu'Israël, justement, a continué de vivre un cauchemar. Et il a tout fait, le régime sioniste et ses partisans, pour retarder, pour fuir ce cauchemar, y compris cette tentative désespérée de normalisation des relations avec une poignée de pays arabes, de pays en effet très très faibles dans la région. Il paraît qu'aujourd'hui, monsieur le professeur d'Ortiguier, le régime sioniste en effet n'a d'autre choix que de se soumettre à cette logique, à cette force de la logique de la résistance au niveau régional. Monsieur le professeur.
Oui, en effet, vous le bien, M. Codavandé, je me permets de le dire dans toute humilité, il y a une logique, en effet, de la résistance. Cette logique a été, je dois dire, sur le plan juridique, formulée, ceci doit être connu, dès que Israël a présenté sa candidature, donc dans les circonstances que je vous ai dites, aux Nations Unies. Il y a eu une condition qui a été mise par les Nations Unies, condition qui n'a jamais été respectée, c'est que cet État fasse partie de la communauté internationale sous la réserve qu'il puisse restituer ce qui avait été spolié aux Palestiniens. Or, naturellement, sous prétexte que cette résistance était terroriste, etc., jamais, les autorités israéliennes n'ont manifesté, disons, de remords quelconques ou de décision, par exemple, de vouloir composer avec les habitants. Ils ont, comme on le sait très bien, ils ont même brûlé toutes les archives, etc. Ils ont voulu faire, disons, ils ont voulu expulser, déraciner complètement les Palestiniens. Et donc, au congrès de Jéricho, puisque je réponds à Maître Chami, peut faire écho à ce qu'il a dit, au congrès de Jéricho, je crois que c'est 1948, c'est-à-dire après la proclamation de l'entité sioniste par Ben Gurion, il a été décidé que la Palestine s'est elle-même reconnue comme appartenant à faisant partie, je cite les textes de la déclaration palestinienne de l'époque, comme faisant partie de la Syrie méridionale. Et ceci est très important. C'est-à-dire qu'on peut en tirer des conclusions aujourd'hui. Il ne peut y avoir de paix en Syrie. Il ne peut y avoir de paix à l'intérieur de l'ancienne, de l'Orient arabe. Il ne peut y avoir de paix qu'à condition que le problème palestinien soit résolu. Il n'y a qu'une seule façon de le résoudre, c'est de restituer les terres qui ont été volées. Bien. Alors, ceci est peut paraître inaccessible. Pourtant, c'est la loi. La fatalité, le destin lui-même, disons, y portera. Il y a une vieille formule, je terminerai là-dessus, vieille formule du professeur allemand Hegel au XIXe siècle. Il a fait un livre, une conférence sur le destin. Et il visait d'ailleurs le peuple juif dans ce destin. Il disait, le destin, c'est la conscience de soi, mais comme d'un ennemi. Et là, aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est la conscience de lui-même, mais comme d'un ennemi de ses propres intérêts, de l'intérêt de ses propres habitants. C'est-à-dire que ceux qui ont poussé les Israéliens, la colonisation sioniste, ne sont pas réellement des religieux. Ce sont en réalité des matérialistes, ce sont des athées, ce sont des bolcheviques, tout le monde le sait. N'est-ce pas? C'est eux qui ont fourni les principales, et avec leurs correspondants, bien sûr, aux États-Unis. Tout ceci, disons, est contre l'intérêt des Juifs eux-mêmes, voyez-vous, bien sûr, de la communauté juive en général, mais il faut savoir qui manipule les ficelles, qui a poussé cela. C'est pour ça que j'aime souvent citer cette proposition russe de Staline, pas de fonder l'État d'Israël, en 1947-48. Bien sûr, de nombreux Juifs se sont laissés prendre dans ces propositions. Il y a même des attentats, vous savez, qui ont été faits en Égypte, dans d'autres pays, pour faire croire que les Juifs étaient, à l'époque, malvenus dans ces pays, et que donc l'État d'Israël serait une terre de sécurité. Au contraire, c'est une insécurité. Il faut justement que la conscience religieuse, sous quelque forme qu'elle apparaisse, disons, se heurte, disons, se dresse plutôt, contre ce qu'on appelle des manipulateurs de la notion de Dieu, des manipulateurs du sacré. En réalité, des forces diaboliques, elles sont supérieures à nous, mais nous avons la foi, bien sûr, et en premier les musulmans, nous avons la foi que la puissance de Dieu est supérieure aux Russes des démons.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'agit pour la Palestine, les groupes palestiniens, la résistance, un combat désormais existentiel. Alors, quelle est la stratégie, les groupes de la résistance, le monde musulman devrait en effet adopter pour faire face au régime israélien dont la survie est plus que jamais en jeu, Maître Chami?
La stratégie est celle qui a été adoptée depuis quelques années, c'est-à-dire la stratégie de l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est de se rapprocher de plus en plus de la frontière de l'entité sioniste, enfin la frontière supposée de l'entité sioniste, afin de créer ce sentiment de peur, y compris au sein de la population, parce que tant que la population se croit être en sécurité, évidemment, ils auront toujours l'illusion qu'ils peuvent vivre tranquillement. Aujourd'hui, quelle est la plus grande menace, me semble-t-il, pour l'entité sioniste? C'est le courant de départ, c'est-à-dire quand sa propre population commence à quitter le territoire occupé. Parce que, à partir du moment où vous ne vous sentez pas en sécurité dans un pays qui était censé vous apporter la paix, dans lequel vous êtes censé vivre paisiblement sans que l'ancien propriétaire, si je veux dire, de ce territoire, devienne vous troubler dans votre existence. Évidemment, c'est cette menace-là qui vous fera partir. Et aujourd'hui, me semble-t-il, d'abord, que le courant de départ s'amplifie, mais il y a une volonté, évidemment, de créer ce sentiment de terreur, parce que la population des alentours, notamment les Palestiniens, les Libanais, les Syriens et bien d'autres peuples, ont subi la terreur des attaques israéliennes. Mais aujourd'hui, cette peur, cette terreur s'est inversée. C'est-à-dire, quand vous voyez comment s'est ressenti les attaques de missiles du côté, quand ça vient du côté de l'Hezbollah ou quand ça vient du côté de Gaza, évidemment, ça, c'est une déstabilisation totale de tout le régime parce qu'il y a une question qui est posée par la population. On est venu pour qu'on soit en paix, puis finalement, vous, hommes politiques de ce pays-là, vous n'avez pas été en mesure de nous apporter cette paix-là. Et c'est ça la question existentielle qui va se poser les prochains jours, les prochains mois. Et derrière tout ça, c'est le renforcement de la résistance, plus de terreur, et évidemment, il y aura un effondrement de l'intérieur, tous les coups de l'axe de la résistance qui nous seront tardés parce que, encore une fois, cette bataille aura lieu. La question est de savoir c'est quand aura lieu cette guerre et cette bataille.
Merci. Monsieur le professeur Dortier, il nous reste 2 minutes. Et pour vous, dans quelle mesure, en effet, cet inversement du rapport des forces, cet équilibre, en effet, de la terreur concernant la question palestinienne jouera un rôle essentiel dans l'avenir.
Maître Chamy a parlé justement de cette question existentielle. Il est certain que la population, l'insécurité de la population joue un rôle, bien sûr, aura un facteur. Mais, disons, il ne peut y avoir réellement de renversement de situation que s'il y a une union des populations concernées, c'est-à-dire des populations palestiniennes, syriennes, etc., et des États musulmans en premier. C'est-à-dire que toute la région est solidaire. Tant qu'il n'y aura pas de solidarité réelle, effective, et si cette solidarité ne se manifeste pas, alors l'entité sioniste pourra subsister dans les massacres, subsister dans la terreur, disons une terreur partagée, du côté évidemment beaucoup plus partagée par les Palestiniens que par les Israéliens, mais disons une terreur commune quand même. Or, ceci ne peut s'arrêter que si les États prennent conscience. C'est eux qui sont responsables devant Dieu et devant l'histoire. Que si les États locaux prennent conscience qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre, de paix durable, si cette question palestinienne n'est pas résolue, n'est pas correctement posée. Or, les conférences jusqu'à présent ne l'ont pas faite. Et je crois que nous sommes au pied du mur et que ceux qui aujourd'hui pactisent avec la politique de M. Netanyahou dans les États arabes commettent un très grand crime contre leur peuple et seront responsables justement des malheurs futurs. Il faut justement qu'eux-mêmes sachent que leur propre trône, leur propre équilibre, disons, sera rompu. L'histoire, dans le vrai sens du terme, qui est dans les mains de Dieu, ne permettra pas, disons, à quelque chose d'absurde, de sanguinaire comme ça, de durer. C'est impossible. Je crois donc qu'il faut une solidarité totale des peuples et des gouvernements et des États locaux.
Monsieur le professeur Pierre Dortier, philosophe et politologue français, maître André Chamy, juriste international et sociologue, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Andalan, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité.
céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. La Libye et l'Algérie discutent de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Dbeiba a rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum à Tripoli pour discuter notamment de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. La réunion qui s'est tenue au bureau du Premier ministre a porté sur le renforcement de la coordination et des consultations politiques sur diverses questions d'intérêt commun, indique un communiqué publié par le bureau d'information du Premier ministre libyen. Les deux parties sont convenues de poursuivre la coordination et les consultations sur la lutte contre les menaces à la sécurité dans la région, telles que le terrorisme, les crimes organisés transrégionaux, transnationaux, le trafic de drogue, le commerce des armes et l'immigration illégale, précise le communiqué. Les deux responsables ont également reconnu l'importance d'accélérer les réunions préparatoires à la 14e session du Haut Comité exécutif conjoint, selon la même source. La Libye s'efforce d'activer l'union du Maghreb arabe et d'appeler à une réunion des pays qui la composent au niveau des ministres des Affaires étrangères, conclut le communiqué. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye présente sa proposition en faveur d'une base constitutionnelle pour les élections. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Jean Kubis, a transmis sa proposition en faveur d'une base constitutionnelle pour les prochaines élections au Forum de dialogue politique libyen. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Jean Kubis, a transmis à la session plénière du Forum de dialogue politique libyen le projet de proposition en faveur d'une base constitutionnelle pour les élections, tandis que le comité juridique du FDPL l'a finalisé ces derniers jours suite à sa réunion à Tunis, indique un communiqué publié par la mission d'appui des Nations Unies en Libye. M. Kubis convoquera bientôt une session plénière virtuelle du FDPL après la fête de l'Aïd al-Fitr pour discuter et délibérer de la proposition selon la même source. Réitérons le plein engagement de l'ONU envers la tenue des élections nationales le 24 décembre. L'envoyé spécial a appelé les membres du FDPL à respecter des discussions un esprit de compromis, à mettre les intérêts de leurs concitoyens libyens et des futures générations au-dessus de toute autre considération, ajoute le communiqué. « RDC, le président décrète l'état de siège dans deux provinces confrontées à la violence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé sa décision de remplacer les autorités civiles par des militaires et des policiers dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, situées au nord-ouest du pays, où l'état de siège entrera en vigueur pour faire face à l'insécurité croissante dans cette région. L'état de siège dans les deux provinces a débuté jeudi pour une durée de 30 jours, indique l'ordonnance présidentielle lue par le porte-parole du président congolais. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, celles des entités de décentralisés et de concentrés des dites provinces seront remplacés par les officiers des forces armées de la RDC et ou de la police nationale congolaise désignés à cet effet, note l'ordonnance. L'état de siège avait été annoncé le 30 avril. L'objectif est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui tue quotidiennement nos concitoyens dans cette partie du pays, avait déclaré auparavant le porte-parole du gouvernement. La rébellion est en débandade. Selon le CMT, le ministre tchadien de la Défense et du Conseil militaire et de transition affirme que l'armée tchadienne aurait remporté de nombreuses victoires contre les rebelles du front pour la l'alternance et la concorde au Tchad, FACT. Brahim Daoud Yahia est catégorique. Le nouveau ministre tchadien de la Défense affirme que les rebelles qui mènent depuis la mi-avril une offensive sont en débandade et que les autorités ne vont pas dialoguer avec les terroristes. Les forces de l'ordre sont en plein de ratissage dans la zone d'opération. La plupart des prisonniers sont entre les mains de la gendarmerie et bien traités. L'ennemi est en débandade, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Nous n'allons jamais dialoguer avec des terroristes, a-t-il conclu. Niger, 15 militaires tués lors d'une attaque terroriste dans l'ouest du pays. 15 militaires nigériens ont été tués et 4 autres blessés dans une nouvelle attaque terroriste contre leur position survenue dans la région de Tillaberi, située au sud-ouest du pays, a annoncé le ministère nigérien de la Défense. Des individus lourdement armés et venus à bord de motos ont attaqué une position militaire de l'opération Al-Mahawa dans la zone nord de Tillaberi, a-t-il précisé dans un communiqué faisant état de la mort de 15 soldats. Après de violents combats ayant permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi, ce dernier a été contraint de se replier vers le nord, a poursuivi le ministère dans son communiqué. Cette attaque terroriste intervient après celle qui a visé le 1er mai une patrouille de la garde nationale dans la région de Taoua, dans l'ouest du pays, faisant 16 morts, 6 blessés et un disparu selon le bilan officiel. La vaccination contre la COVID-19 permettra de retrouver vite la croissance économique selon le président de la commission de la CEDEAO. le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, a déclaré, c'était à Dakar, qu'avec la vaccination contre la COVID-19, cet espace ouest-africain pourrait rapidement retrouver les conditions d'une reprise de la croissance économique. Intervenant à la télévision publique sénégalaise, M. Brou a souhaité que la dynamique de la vaccination contre la COVID-19, qui a déjà démarré dans plusieurs pays depuis des mois, puisse se poursuivre et s'amplifier. Il n'y a que cette croissance qui va nous permettre d'avoir des emplois et la stabilité économique et financière et le progrès économique pour la région de l'espace CEDEAO, a-t-il expliqué. L'espace de la CEDEAO a subi les contre-cours de la COVID-19 avec des conséquences financières et humanitaires qui ont entraîné une baisse des activités financières dans cette partie de l'Afrique, a-t-il rappelé. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, cette émission s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.